Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire général de la CFDT. Question-réaction au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Depuis l'annonce par le gouvernement du contenu de la réforme de l'assurance chômage, vous avez décrit à plusieurs reprises votre colère, votre boule au ventre. Vous avez dit avoir les nerfs face aux nouvelles procédures que vous estimez injustes. Ce sont selon vous les plus faibles, les plus précaires, qui vont payer le prix de cette réforme. Vous avez accordé un long entretien au quotidien Libération vendredi dernier où, pour être tout à fait honnête avec vous, on sent autant la colère qu'une forme de désespoir. Votre désespoir face à cette réforme particulière, mais peut-être plus généralement face à l'échec du syndicalisme depuis 2 ans. Avez-vous éprouvé ce sentiment ?
Non, c'est d'abord, à hauteur de femmes et d'hommes qui subissent la précarité, une profonde colère. Profonde colère parce que cette réforme, elle est désincarnée. Elle est théorique. Elle est hors des préoccupations de ces personnes, de ces travailleurs qui alternent les périodes de chômage et d'emploi parce que la précarité est très présente dans le marché du travail. Et puis, c'est pas du désespoir.
C'est
la démonstration. Ce qui est en train de se passer, c'est une démonstration assez simple finalement. Que lorsqu'on nie la place de la négociation collective, c'est vrai de la part du gouvernement, mais c'est vrai aussi parfois de la part d'autres organisations syndicales ou patronales, et bien finalement, on est face à des décisions unilatérales qui sont extrêmement dures et qui ont des conséquences très graves. Je dis ça parce que ce qui est remis en cause dans cette réforme, c'est ce qui avait été négocié en 2008, puis en 2013, par les organisations syndicales, en tout cas certaines d'entre elles, et qui avaient été signées par la CFDT.
On va en parler, on va rentrer dans le détail de l'assurance chômage et de la réforme des retraites, mais pour revenir sur la tonalité de votre entretien de samedi, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est du défaitisme ? N'y avez-vous pas une responsabilité en actant ainsi ? Parce que vous actez la faillite des corps intermédiaires, vous actez faillite, et si vous baissez les armes, qui va se battre ?
Non, défaitisme, s'il y avait du défaitisme, vous savez, ce matin je ne me serais pas levé pour venir ici, je ne me lèverais pas demain et je ne continuerai pas ce qu'est mon engagement militant, mon engagement syndical. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se doit, moi j'en ai assez de ces responsables qui font de la communication et qui ne disent pas exactement les choses. Oui, aujourd'hui, il y a dans notre pays un recul du consentement à la solidarité et il y a une forme de considération du fait que lorsque les plus fragiles on octroie des allocations, des indemnisations, etc. Finalement, est-ce que c'est pas des dépenses est-ce qu'on n'arrose pas le sable est-ce que c'est pas des dépenses inutiles? Moi, je m'insurge contre ça. Alors oui, je suis pas dans le courant de pensée majoritaire de ce pays quand je dis, quand la CFDT dit qu'il faut davantage aider ceux qui sont le plus en difficulté, que ce soit ceux qui subissent des situations de pauvreté ou ceux qui sur le marché du travail subissent de la précarité. Donc moi, j'ai un regard lucide. Mais par contre, c'est pas du défaitisme. Cette réforme, le gouvernement, ça va lui coller au basket pendant un moment, parce qu'on va avoir un droit de suite. Parce qu'effectivement, les premiers effets, ça sera plutôt début 2020. Et la CFDT n'aura de cesse de démontrer que cette réforme, elle est profondément injuste et elle aura des conséquences très graves. Un, sur la façon, le pouvoir de vivre de chaque citoyen concerné, de chaque travailleur concerné, tous les mois. Deux, sur des personnes, des jeunes particulièrement, qui ne pourront pas rentrer en indemnisation du chômage parce qu'ils n'auront pas la période nécessaire. Ça concernera 240 000 personnes dès l'année prochaine.
Encore un mot, Laurent Berger, avant d'entrer, comme le disait Léa, dans le détail des sujets. Dans le sillage de l'élection présidentielle, vous aviez dit très franchement que les syndicats pouvaient, eux aussi, être ubérisés comme les partis politiques venaient de l'être. Et que sous cette forme-là, en tout cas telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, les syndicats pouvaient peut-être disparaître. Alors, est-ce qu'on y est aujourd'hui à cette ubérisation ou même pas ? Est-ce que les syndicats, là, ont été transformés ou tout simplement vaincu?
Non, pas vaincu. Vous savez, les perdants sont les chômeurs. C'est pas d'abord les organisations syndicales ou je ne sais qui, c'est d'abord les chômeurs qui sont perdants dans cette réforme et qui sont lourdement perdants. Plus d'un million d'entre eux vont être directement concernés par cette réforme.
Vous voyez bien le
réforme.
Sens de ma question.
Mais je vais y revenir.
Elle s'adresse aussi à ceux qui sont là pour défendre.
Oui.
Donc,
oui.
Avez-vous
Après,
perdu
ce qui est sûr,
êtes-vous vaincu?
Sur l'assurance chômage. À partir du moment où il y a eu transfert de la cotisation salariée vers la CSG, qu'il y a eu inscription dans la loi que toute négociation devrait se faire à partir d'une lettre de cadrage du gouvernement, que ce même gouvernement a fait une lettre de cadrage qui était quasi impossible à tenir avec 3,5 milliards d'économies demandées, mais surtout des mesures, notamment concernant les demandeurs d'emploi, qui étaient impossibles à tenir pour nous, et du côté des entreprises, un bonus-malus que les entreprises ne voulaient pas. Et ensuite, lorsqu'on négociait des interventions régulières de la part du gouvernement ou du président de la République dans cette négociation. Oui, c'était inscrit. Donc ça démontre une chose, c'est lorsque les organisations syndicales et patronales ne sont pas en capacité ou ne veulent pas négocier, elles perdent du pouvoir d'agir.
C'est ce que j'allais
elles
vous dire.
Elles perdent du pouvoir d'agir.
Parce que vous êtes sorti très en colère de la réunion à Matignon où le Premier ministre vous a détaillé la réforme de l'assurance chômage, mais est-ce que ce n'est pas une colère contre vous-même? Vous n'avez pas été capable de vous entendre.
Je vous le redis, Madame Salamé, les conditions n'étaient pas réunies. Mais vous savez, la CFDT, on ne peut pas lui faire ce procès-là. C'est les droits qui sont remis en cause dans cette réforme, c'est des droits que parfois la CFDT a actés seule. En 2008... Contrairement à ce que dit le gouvernement, ce n'était pas un accord pour lutter contre les effets de la crise. Nous ne la connaissions pas encore. Donc en 2008, lorsqu'on signe cet accord, et là il y a un profond mensonge du gouvernement, je tiens à le dire. Parce que dans le préambule de cet accord que j'ai là, il n'y a rien qui parle de la crise. Donc on fait cet accord tout simplement parce que ça donne des droits nouveaux aux plus précaires, et notamment aux plus jeunes. Seule la CFDT s'engage en 2008. En 2013, on crée les droits rechargeables à l'assurance chômage. C'est-à-dire, quand vous reprenez un travail, ça vous recrée des droits. Mmh. Aujourd'hui, on balaye ça d'un revers de main de la part du gouvernement. C'est la démonstration que lorsque les partenaires sociaux, les acteurs sociaux, ne se mettent pas d'accord entre eux, oui, c'est vrai, eh bien, c'est le gouvernement qui a les manettes, qui a les mains libres. Et donc, moi, j'acte ça, tout simplement. Alors, je le fais peut-être avec trop d'honnêteté. Peut-être que je le fais avec trop d'honnêteté. Mais moi, j'en ai marre de mentir. J'ai jamais menti et j'en ai marre de ceux qui mentent, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que en gros, tous ceux qui pourraient vous faire croire que finalement cette réforme, elle est anodine, c'est une réforme d'ajustement.
Donc le gouvernement.
Oui, bien sûr, mais le gouvernement, lorsqu'il dit qu'on veut lutter, c'est pour lutter contre la précarité, c'est un mensonge. C'est pour lutter contre les précaires. C'est ça
la philosophie du gouvernement, c'est de dire qu'en durcissant les règles d'indemnisation du chômage, eh bien, ça va pousser les gens à ne pas rester au chômage et à aller chercher un emploi. L'idée du gouvernement, il me semble, que c'est de dire que le système français est ultra généreux et qu'en gros, il faut durcir les choses pour lutter contre le chômage de masse.
Oui, donc je m'insurge contre ça. Il y a deux sous-jacents.
Cette réforme, c'est un mensonge.
Le premier sous-jacent, c'est que c'est une réforme purement budgétaire qui va faire beaucoup d'économies et sans doute beaucoup plus qu'annoncé, tellement les règles sont dures. Le deuxième élément, c'est que il y a un petit sous-jacent qui est que les demandeurs d'emploi, notamment ceux qui alternent les contrats courts, malheureusement pour eux, et les périodes de chômage, ce seraient des profiteurs. Voilà. Et c'est ça là, le deuxième sous-jacent. Et moi, je m'insurge contre ça.
Donc pour vous, la philosophie qui préside à ce texte est... est basée sur un mensonge, c'est pas vrai.
Madame Salamé, il y a plus de 3,5 milliards d'économies qui vont être faites. La majorité, l'immense majorité de ces économies, c'est sur le dos des demandeurs d'emploi. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc, qu'on arrête de nous dire que cette réforme, c'est pour lutter contre la précarité. Il y a un bonus-malus qui est instauré.
Il y a un bonus-malus sur
les entreprises.
Ça, c'est les entreprises qui vont payer, c'est pas les chômeurs.
La précarité sur 7 secteurs simplement, qui vont concerner 34% de ces contrats courts.
Donc, c'est un trompe-l'œil, c'est ça, ce que vous dites?
Et avec un effet qui arrivera en 2021, dont on ne connaît pas encore le niveau de ce bonus-malus, s'il sera réellement incitatif. Donc, oui, je le dis, il y a un choix très clair de taper sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi et en contrepartie assez peu de responsabilisation des entreprises, voire quasi pas.
Sur la dégressivité des indemnités des cadres de ceux qui gagnent plus de 4 500 € brut, n'est-ce pas une forme, je vous demande votre réponse sincère, hein, une forme de justice sociale? Je m'explique. Au fond, c'est l'idée que les premiers et les deuxièmes de cordée doivent en porter plus que les autres et plus que les suivants. Est-ce que c'est ça, selon vous, la clé de cet aspect de la réforme?
Je crois que d'abord, cet élément-là de la réforme, dont je vais parler, ça a d'abord été un élément pour cacher le fait qu'on tapait beaucoup sur, j'aime pas beaucoup ces allusions à la cordée, j'aime pas beaucoup cette vision, mais c'est pour taper ceux qui sont tout au bout de la cordée, voire qui sont plus déjà raccroché à la cordée. Mais donc ça a servi d'argument un peu pour dire, vous voyez, on fait une réforme équilibrée. L'assurance chômage, c'est un système assurantiel. Enfin, en tout cas, ça devrait rester un système assurantiel. Et les cadres, ils cotisent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent à l'assurance chômage. Si on veut un décrochement de la solidarité, on fonctionne comme ça. Parce que les allocataires de l'indemnisation chômage, ceux qui sont indemnisés, qui sont cadres, ils ont cotisé en proportion de leurs revenus. Ils ont cotisé pour avoir une indemnisation qui tienne la route. Et là, on leur dit, au bout du 7e mois, on va faire de la dégressivité parce que vous restez un peu trop au chômage. D'abord, la dégressivité, dans aucun système au monde, ça n'a prouvé son efficacité. Deuxièmement, on a une forme de stigmatisation pour essayer d'expliquer que cette réforme serait juste. Donc là aussi, nous sommes contre.
Laurent Berger, Dominique Seux disait tout à l'heure dans son édito que la colère de Laurent Berger sur l'assurance chômage, c'était un avertissement au gouvernement pour la réforme des retraites à venir. Quelle est votre lecture des premières bribes de ce qu'on devine de ce que va être la réforme des retraites? Maintenir l'âge légal à 62 ans et faire un âge d'équilibre à 64 ans, est-ce que pour vous c'est un jeu de passe-passe pour dire qu'en gros on va travailler jusqu'à 64 ans ou non? Vous y voyez des garanties pour qu'on garde cet âge légal à 62?
D'abord, juste une petite incise, je suis un très mauvais acteur, je ne feins jamais.
C'est pour Dominique Seux?
Non, c'est pour juste expliquer que moi je ne suis pas dans les coups tactiques. Je parle des gens, des personnes, et là, je vous le dis, pour les personnes qui subissent la précarité, pour les chômeurs indemnisés, c'est très grave ce qui se passe. Deuxièmement, en tout cas, si le gouvernement procède de la même manière sur la réforme des retraites, alors que jusqu'alors il y a eu une concertation digne de ce nom, où on a pu discuter avec M. Delevoye, il y aura une opposition ferme. Si l'approche qui est poursuivie, c'est qu'un gouvernement qui a une vision théorique du travail, théorique de l'emploi, théorique des retraites, voire théorique même de la vie quotidienne des citoyens, eh bien, on sera en opposition. Si au contraire, il y a une vision d'une réforme qualitative qui réduit les injustices, celles que subissent les femmes, celles que subissent justement ceux qui alternent des carrières un peu hachées avec des périodes de chômage, des périodes de travail, etc. Si la réforme elle est juste, avec de la pénibilité, avec des dispositifs carrières longues, nous saurons le dire. La CFDT est juste sur pièce. C'est ce qui fait que on est parfois critiqué lorsque on dit qu'on est d'accord avec certains points. On est critiqué lorsqu'on s'oppose fortement. Tout simplement parce que nous, on regarde la réalité des sujets. Et donc sur les retraites, nous voulons une réforme qui soit une réforme qualitative de justice et pas une réforme qui soit paramétrique ou qui soit une réforme d'économie.
Dans cette interview de Libération, vous dites que vous ne promettrez jamais le grand soir à la CFDT, que vous ne vendrez pas d'illusions non plus. Dites-nous, sur le plan de l'analyse du moment dans lequel se trouve la France aujourd'hui, à quoi assiste-t-on chez les citoyens? Est-ce un assentiment tacite à la politique menée par Emmanuel Macron, par le gouvernement, ou à une forme de lassitude démocratique qui fait que les citoyens acceptent, et n'entrent pas en lutte?
Non, je ne crois pas que les études montrent un assentiment. En tout cas, dans le monde du travail, ce n'est pas du tout la perception que nous en avons, ni même d'ailleurs dans les militants CFDT. Je pense qu'il y a une lassitude démocratique. Je pense qu'il y a une lassitude démocratique et qu'il y a finalement une absence de sens sur le modèle de société qu'on a envie de construire. Est-ce qu'on a envie de construire un modèle de société respecté, qui respecte l'environnement, mais qui soit aussi à hauteur de femmes et d'hommes, qui mette des éléments de justice, qui mette des éléments de solidarité? Enfin, ce dont il est question sur l'assurance chômage, pourquoi ça me met en colère? C'est juste tout simplement parce qu'il est question de solidarité. C'est une notion qui a disparu parce qu'on fait la promotion d'une certaine manière de l'individu tout puissant qui s'en sort. Et donc, c'est ça qui est en cause aujourd'hui.
Mais vous pensez pas que
je crois qu'il y a une fatigue démocratique. Je crois que cette fatigue démocratique, elle peut nous emmener loin dans la folie, dans le chacun pour soi, dans le repli sur soi. Et c'est contre ça qu'on s'insurge. Donc moi, quand je dis que demain, on va se mobiliser symboliquement devant le ministère du Travail et toute la semaine, on va faire des initiatives, particulièrement demain, en direction des demandeurs d'emploi. Parce que je crois qu'il faut redonner des éléments d'explication et redonner des éléments de sens de ce qu'on veut comme modèle social dans notre pays qui est menacé aujourd'hui.
Mais quand vous regardez les résultats des européennes, quand vous regardez l'absence de grand soir social en France depuis 2 ans, qu'Emmanuel Macron fait passer ses réformes les unes après les autres, la loi travail, la SNCF, maintenant l'assurance chômage, demain les retraites, sans qu'il y ait de mobilisation, est-ce que vous ne vous interrogez
vous savez...
Non, mais est-ce que vous ne vous dites pas qu'au fond, peut-être les Français veulent, sont pour ce pragmatisme individualiste et que en tout cas, c'est le souhait du moment.
Vous savez, le grand soir social, moi j'y crois pas, je crois pas au grand soir parce que ça fait souvent des petits matins un peu triste.
La loi El Khomri, il y a eu un grand soir social contre cette loi-là, non ?
C'était un échec. C'était un échec de la mobilisation. Donc, et d'ailleurs, moi, cette loi El Khomri, je vous rappelle, dans ce studio, j'étais souvent bousculé et je disais qu'il y avait un intérêt à remettre de la négociation au plus près des entreprises. Donc, je continue là-dessus. Non, ce dont il est question aujourd'hui, c'est clairement pas une acceptation, c'est une forme d'indifférence. Et oui, cette réforme, moi, j'ai un peu les nerfs, parce qu'elle va passer sous une forme d'indifférence. On n'en parlera plus dans une semaine. Mais la réalité, c'est que ça va s'ancrer dans la vie quotidienne de milliers et de centaines de milliers de chômeurs. Et donc, la question qui est posée, c'est quoi le rôle d'une organisation syndicale?
Mais c'est oui, finalement mais qu'est-ce que, alors précisément, Laurent Berger, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, c'est de simplifier.
Parce que, à part faire la liste de tout ce qui est passé sans aucun problème, qu'est-ce que vous allez faire comme syndicaliste?
Demain, on va se mobiliser. Ce sera peut-être symbolique parce que je ne fais pas rêver qu'il y aura des centaines de milliers de personnes dans la rue, mais on va se mobiliser et on continuera. Ça sera le premier jour d'un droit de suite de cette réforme. Ensuite, sur tous les sujets qui sont en cours, nous, on va porter une analyse. Moi, je ne suis pas contre ou pour par principe. Je regarde le fond des problèmes et des sujets soulevés. Lorsqu'on est d'accord, on le dit. On l'a déjà dit. On est en désaccord, on le fera. Et lorsqu'il y aura nécessité de mobilisation, on verra comment on peut se mobiliser. Mais voilà. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est tout ce que vous oubliez qui se passe dans les entreprises. Toute la présence syndicale dans les entreprises qui fait qu'au quotidien, des salariés obtiennent des résultats parce que nous nous sommes mobilisés.
C'est d'ailleurs ce que disent les théoriciens du macronisme, Laurent Berger, que les syndicats s'occupent de ce qui se passe en bas,
mais on le fait,
dans les entreprises,
le faisons,
et ne soient pas la courroie de transmission
mais faisons,
vers le haut.
Mais monsieur de Morand,
vous le savez, vous avez lu le livre des deux conseillers d'Emmanuel Macron.
Une partie au moins.
Une partie, celle qui vous concerne.
Ça suffisait déjà. Nous le savons que le rôle des organisations syndicales, c'est dans les entreprises. Et nous le faisons. Et nous le faisons. Et nous le faisons tellement que la CFDT, elle progresse aujourd'hui dans les élections professionnelles. Mais je considère, et la CFDT considère, que le rôle des organisations syndicales, c'est aussi d'agir sur l'ensemble du modèle social.
C'est ça la question qu'on cherche.
Mais oui, on a encore le pouvoir, à une seule condition. À une seule condition, je vous le dis, c'est qu'il y ait de l'espace redonné à la négociation collective dans ce pays, y compris d'un niveau des branches et d'un niveau interprofessionnel.
Ouais, et alors là, on vous répondra que quand on vous donne de l'espace, vous n'y arrivez pas.
Mais c'est ce que répond le président de la République. Excusez-moi de vous le dire comme ça. C'est ce que répond le président de la République.
C'est pas être porte-parole du président de la République, mais c'est un fait.
Mais non, mais on n'y arrive pas parce que les conditions pour le faire sont pas réunies. Et moi, si vous voulez, c'est quand même assez incroyable que c'est à la CFDT qu'on va reprocher de pas avoir réussi cette négociation. Nous avons essayé jusqu'au dernier moment. Et le patronat a dit, parce que le président de la République, dans un grand débat, mais rappelez-vous quand même, parce qu'on n'est pas dans des photos successives, on est dans un film. Le président de la République a dit dans un débat, on fera ce bonus-malus, le patronat a dit, on se retire. Voilà. Et je veux dire, au bout d'un moment, lorsqu'il n'y a plus personne autour de la table, on ne peut plus agir.
Vous n'avez pas pensé à partir à un moment, à claquer la porte? Vous n'avez pas marre?
Partir d'où?
De votre poste, de quitter le syndicalisme, d'aller faire de la politique.
Mais vous savez, je regarde un peu ce qui se passe à l'international. Partout où le syndicalisme est absent, le droit des travailleurs recule. Alors après, si la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des fois, il y a de l'adversité? Oui, il y a de l'adversité. Mais comme lorsqu'on anime une matinale, comme lorsque... parfois, il n'y a pas que des moments faciles dans la vie. Eh bien, quand il n'y a pas des moments faciles...
En ce moment, ce n'est pas très facile pour vous.
Mais ce n'est pas facile parce que, tout simplement, la situation des travailleurs... Elle est difficile. Moi, je joue pas pour moi, je joue pas pour, même pas pour mon organisation d'une certaine manière. Je joue pour les travailleurs. Et la situation des travailleurs, elle est pas facile. Et la situation démocratique de notre pays est dangereuse. Et donc, si on continue de considérer que dans notre pays, on pourrait avoir ceux qui décident, les sachants, comme a dit le président de la République à l'OIT, il faut qu'on arrête d'avoir une logique de sachants qui font pour les subissants. C'est ce qu'il a dit texto dans son discours de l'OIT. Eh bien, si on veut arrêter ça, il faut des corps intermédiaires, des acteurs sociaux, je préfère ce terme, qui agissent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des moments faciles, des moments plus difficiles. Eh bien, il faut continuer même dans ces moments-là.
Bernard Yves est au standard d'Inter. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à la belle équipe de France Inter. Bonjour à Laurent Berger.
Bonjour.
Ce gouvernement va rajouter la précarité à la précarité. Juste une parenthèse. Avant ma question, dans la commune de Vineuil, vous avez deux agents qui ont eu et qui ont toujours 46 contrats successifs depuis 8 ans et qui sont toujours en CDD. Ma question, vous ne pensez pas, Monsieur Berger, que ce gouvernement, peut-être le président aussi, n'ont-ils pas une culture anglo-saxonne? Autrement dit, ils mettent en place la précarité que nous voyons en Angleterre avec les mesures qui ont été prises. Et aujourd'hui, alors que le raisonnement, on avait parlé beaucoup des pays scandinaves, ce chemin a été abandonné. Et j'ai l'impression que nous vivons des décisions qui comportent des mesures un peu à la anglo-saxonne. Quel est votre avis?
Merci Bernard Yves pour cette question. Laurent Berger vous répond.
Oui, je partage l'idée que ce qui est en train de se construire, c'est davantage un modèle à l'anglo-saxonne. Quand je parlais de la société de l'individu tout à l'heure, c'était ça. qu'un modèle scandinave qui est un modèle davantage de négociation collective et de consentement à la dépense mutualisée pour garantir un modèle de protection sociale. Donc le risque, il est celui-là, mais parce que tout simplement, la logique qui a œuvré pour cette réforme, c'est une logique purement budgétaire.
Michel est en ligne depuis la belle ville de Lyon. Bonjour Michel, bienvenue.
Bonjour tout le monde et merci pour vos commentaires. Monsieur Berger, je suis surprise, je n'entends pas parler du ratio point salaire pour la retraite, du taux qui va être décidé, qui va le choisir. Est-ce que la valeur du point sera valable une année, deux années, trois années, pardon? Comment va-t-on s'en sortir? Parce que je n'entends pas parler de tout ça. Et ça me paraît très grave.
Merci Michel pour cette question. Laurent Berger vous répond.
Oui, tout simplement parce que cette réforme des retraites, aujourd'hui, elle n'est pas encore finalisée. Mais vous savez, vous posez la question centrale, c'est-à-dire comment va être fixé le point? Quelle sera la stabilité de ce point et quel sera le système de revalorisation de ce point? Mais finalement, ce sont des questions qui sont déjà un peu posées dès aujourd'hui. Je vous rappelle que l'été dernier, le gouvernement a décidé la non-indexation des retraites sur l'évolution de la vie. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est un système qui soit conduit, pas simplement par des décisions gouvernementales dans la revalorisation de ces points, mais c'est des discussions que nous aurons sans doute à l'automne, lorsque le projet sera dévoilé, ce que nous ne connaissons pas encore.
On va aller... Pardon, au standard, on me parle au casque en même temps. Julien est en ligne depuis le Pays Basque, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Julien, bienvenue.
Merci. Merci pour toutes vos émissions.
Merci.
Je voulais intervenir, je fais partie des cadres qui gagnent un tout petit peu plus de 4 500 € mensuels. Aujourd'hui, je suis en CDI, j'ai déjà créé plusieurs startups et donc j'ai déjà créé des emplois. Et c'est vrai qu'avec cette réforme chômage, au bout de 7 mois, si je peux plus continuer à vivre et à faire vivre ma famille, je peux plus prendre le risque de créer des startups et donc d'essayer de créer des emplois pour la suite, quoi. Ça peut devenir très compliqué.
Merci Julien pour ce témoignage. Laurent Berger, un mot?
Oui, mais c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est une vision un peu stigmatisante en disant si vous n'avez pas repris du boulot au bout de 7 mois, ce qui ne veut pas dire qu'un certain nombre de cadres, eh bien, parce que durant cette période de chômage, ils sont aussi très actifs pour retrouver du travail, mais aussi pour la création d'emplois. Ça, on l'a dit au gouvernement, mais comme la logique était très comptable et très budgétaire, on en est resté là malheureusement, mais monsieur a raison, Julien a raison.
Est-ce qu'on est riche à 4 500 € brut par mois?
Mais la question n'est pas tellement celle-là, je veux dire, on est toujours plus riche par rapport à quelqu'un.
On est toujours le riche de quelqu'un.
Voilà. Donc la question, c'est lorsque vous vivez avec 4 500 € parce que c'est votre rythme de vie, que vous avez travaillé, que vous avez cotisé, vous avez le droit à l'assurance chômage. Si tout d'un coup, au bout de 7 mois, c'est amputé de 30% comme c'est prévu dans le projet, eh bien, vous êtes dans une situation plus précaire.
Il nous reste une minute.
Une minute pour vous poser la question sur le grand débat sur l'immigration qui est prévu en septembre à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut ouvrir tous les sujets, et dont les sujets sur les quotas d'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, c'est le vieux serpent de mer. Moi, je crois qu'on prend mal le sujet sur l'immigration. Tout le monde le sait. Ça fait partie d'une intervention de notre part régulière. Je pense qu'on prend mal le sujet et qu'il faudrait plutôt parler d'abord. Il faut sacraliser le droit d'asile. Je pense que c'est en train d'être fait. En tout cas, on a cru l'entendre dans le discours. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des migrants économiques et que ces migrants économiques, ce n'est pas par les quotas qu'on traitera la question.
Laurent Berger, en colère donc, mais pas désespéré.
Pas du tout, mais
vraiment.
Pas du tout.
Donc c'est
mobilisé,
un démenti.
Vous nous avez rassuré sur
mobilisé,
parce
je
qu'on aurait pu
bien,
croire
mais surtout,
que vous aviez un énorme coup de blues.
Mais vous savez, lorsque la question, c'est pas tellement moi. La question, ce sont les personnes, les demandeurs d'emploi. Et c'est pour ça que... et moi, j'étais conseiller en insertion professionnelle, vous le savez. Et donc, je sais ce que c'est, tous les jours, de se lever, de ne pas avoir de boulot et d'en chercher, et d'avoir encore des difficultés le lendemain.
Laurent Berger, merci. Il est 8h46, le Carrefour du 7-9, à suivre.